Le rayon BD, notre besoin d'utopie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture, une émission en direct en ces temps de confinement, avec trois invités à distance. Avec ces invités, nous parlerons de politique dans son sens le plus large et le plus noble. Comment pouvons-nous vivre ensemble? Qu'est-ce que faire société veut dire? Quel horizon commun nous proposons-nous, avons-nous besoin pour avancer d'un idéal ou d'un récit fondateur? Ces questions, qui sont certainement vieilles comme l'humanité, ont traversé les siècles et se sont posées à certaines époques avec une urgence particulière. C'est peut-être le cas aujourd'hui, dans ces temps ô combien troubles que nous vivons. Ce fut aussi certainement le cas à la fin du Moyen-Âge, au XIVe et XVe siècle. C'est en tout cas le pari qu'ont fait il y a quelques années Roxane Moreil et Cyril Pedrosa, en se lançant dans l'écriture d'une impressionnante bande dessinée, L'Âge d'or, un récit de révolte, de guerre, de pouvoir et d'utopie qui se passe au Moyen-Âge, mais nous parle d'aujourd'hui. Le premier tome était sorti il y a 2 ans, il avait connu un grand succès critique et public. Et la seconde partie qui clôt ce grand récit paraît ces jours-ci dans la collection Air Libre des éditions Dupuis. Nous en parlerons dans quelques instants, mais pour commencer ce rayon BD, nous sommes en compagnie de Maïté Robert. Bonjour Maïté Robert.
Bonjour.
Alors ce matin, on s'est réveillé comme tous les jours à 8h29 avec une tartine, un café et un strip. C'est matin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est matin ?
Alors matin, quel journal ? C'est la revue digitale de Dargo, qui a été lancée en avril dernier sur Instagram. L'idée, c'est donc que tous les matins, à 8h29, Matin propose un nouveau contenu, donc une bande dessinée sur le thème de la planète et de l'écologie. Il y a une trentaine d'auteurs et d'autrices qui participent à autant de chroniques, donc qui peuvent être humoristiques, pédagogiques ou plutôt documentaires.
Matin, quel journal, c'était le slogan du journal Pilote pendant des années. Et le sous-titre du Pilote, c'était d'abord le journal d'Astérix et Obélix, puis ensuite c'était le journal qui s'amuse à réfléchir. Est-ce que, en reprenant ce slogan, Matin, quel journal, vous reprenez aussi l'ambition du sous-titre ? Vous vous amusez à réfléchir ?
Tout à fait. Donc d'abord, pour la rédaction, l'idée c'était de faire un laboratoire créatif, avec des auteurs plutôt jeunes, dynamiques, qui peuvent apporter des nouvelles idées à ce débat sur l'écologie. Et prolonger la lecture via des notes humoristiques, donc apporter des sujets de fond, renvoyer parfois vers des contenus additionnels, des podcasts pour donner envie au lecteur de se renseigner sur le sujet.
Alors ce matin,
pour donner peut-être des idées.
Absolument. Ce matin, c'était Joe Dessy sur les fermes urbaines. Hier, Joseph Safiedine sur le bio. Avant-hier, Terreur Graphique sur le plastique recyclé. Il y a 3 jours, c'était Sonia Deschamps et Clément Port sur la réapparition de l'anthrax au pôle avec la fonte des glaces. On a tout un tas d'auteurs. Donc, vous l'avez dit, une trentaine. Bouzard, Mick Enquête, Théo Grosjean, Florent Gobet. Est-ce que c'est une communauté de dessinateurs? Comment est-ce qu'on rentre dedans?
Alors, je ne sais pas exactement pour les autres. Moi, je me suis faite contacter par la rédactrice chef Clotilde Palua, qui m'a contactée via ma page Instagram, qui avait remarqué donc mes propres récits, mes propres bandes dessinées que je faisais pour m'amuser. Et j'imagine qu'ils ont repéré comme ça plusieurs auteurs et autrices sur la page ou peut-être sur leur propre réseau. Et ils disaient qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. L'idée, c'est de faire une page qui apporte plein de touches. Qui peuvent se compléter. Donc voilà, certains qui sont plus qui profitent de l'humour, d'autres qui vont partager des recettes, d'autres qui vont parler seulement de l'axe sur le plastique, par exemple. Donc voilà, donc de faire toute une équipe qui se complète.
Il y a aussi des portraits. Vous, votre dernier strip, c'était la semaine dernière. C'était sur un souvenir honteux d'un fast-food consommé de façon goinfresque après une soirée un peu trop arrosée. Tout ça, ça rentre dans une série que vous appelez la procrastination écologique. Qu'est-ce que c'est exactement cette procrastination? Vous n'arrivez pas à vous mettre à l'écologie?
Alors, ça raconte le parcours que je pense beaucoup de gens font d'avoir toutes les bonnes intentions, d'avoir toute la motivation. Et moi, ce que je raconte, c'est les moments de petits ratés, les déboires. Et j'amène les gens à se positionner aussi, à être un peu indulgents envers eux-mêmes, à dire que bon, ce qui compte, c'est la motivation, c'est les grands actes. Et parfois, bon, c'est vrai que ça arrive. C'est sujet, ça prête à des situations humoristiques. c'est vrai que bon, j'en ai un peu plein sur le moment, mais mieux vaut en rire et mieux vaut continuer à aller dans le grand mouvement, quitte à faire des petits écarts parfois de temps en temps.
Merci beaucoup Maïté Robert de nous inciter à ne pas trop culpabiliser. Et tous les matins, donc demain matin à 8h29, un nouveau strip avec le café et la tartine.
Exactement.
Merci Maïté Robert. Et nous quittons cette époque pleine de petits ratés écologiques et de paradoxes. La consommation numérique d'ailleurs en est peut-être un, pour partir au Moyen-Âge. Le château du Bois d'Armand est assiégé. La princesse Tilda, aidée de son fidèle Tancrède, est bien décidée à reconquérir son trône et à chasser du royaume son frère et son âme damnée Loïs de Vaudemont. Plus loin, dans la péninsule, le peuple, emmené par Hélier, se révolte. Et dans son coffre, le livre de l'âge d'or rayonne et brûle ceux qui s'en approchent. Bonjour Roxane Moreil.
Bonjour.
Vous êtes la scénariste de cette magnifique bande dessinée de 400 pages en tout, en deux volumes, et qui se passe donc au Moyen-Âge. On entend une musique médiévale, mais je voulais vous demander, Roxane Moreil, pour commencer, quel est ce Moyen-Âge qui sert de décor et de trame de fond à l'âge d'or?
Ce Moyen-Âge-là, en fait, c'est un Moyen-Âge pas du tout historique, il est complètement fantasmé. En fait, avec Cyril, on a tous les deux travaillé au scénario, donc on est co-scénariste. On sait raconter l'histoire de Tilda et de ses compagnons, un peu effectivement en piochant dans un imaginaire collectif du Moyen-Âge, donc pas mal dans la culture populaire. Et puis une fois qu'on a comme un peu digéré tout ça, donc plein de Moyen-Âge, et on a créé cet univers à la fois un peu historique, un peu fantastique, tout ça mêlé.
Et pourquoi avoir mis cette histoire au Moyen-Âge? On sent bien que toutes les questions qui sont au cœur de ce livre, L'âge d'or, sont des questions actuelles, sont des questions certainement que vous vous êtes posées, Cyril Pedrosa et vous-même. Pourquoi le Moyen-Âge était l'époque adéquate pour incarner ces questions?
Alors, il nous a semblé que c'était un bon décor parce que à ce moment-là, donc cette période féodale, on a pensé que les dominés vivaient dans un monde où les inégalités, où la domination ne cesserait jamais, où ils pourraient jamais quitter leur place. Et quelque part, on a un peu une impression similaire en ce moment. Ça nous permettait de dire au lecteur peut-être quelque chose comme si vous avez peut-être raison d'imaginer que ça peut se terminer, vous avez peut-être le droit d'imaginer que ça peut se terminer. Regardez-les, eux aussi ils pensaient qu'ils seraient dominés et que leurs enfants, leurs petits-enfants seraient toujours à la même place et on observe que c'est pas le cas. Après il y a aussi quelque part ce décor-là, il est aussi assez pas hasardeux, mais on est vraiment parti avec Cyril quand on a commencé à se raconter l'histoire. On est parti de dessins qu'il avait fait dans son carnet, et notamment du dessin de cette princesse Tilda. Et en fait, au tout début de notre collaboration, on est vraiment parti du dessin pour ensuite raconter une histoire. Et toutes nos préoccupations, toutes nos questions, elles ont infusé le récit, et pas forcément, c'était pas forcément l'inverse. On n'a pas commencé par écrire tout dans les grandes lignes. On a écrit beaucoup à voix haute, comme un conte, comme une histoire qu'on se racontait. Donc voilà, il y a un mélange entre un enjeu de dire quelque chose et puis aussi beaucoup de jeu, en fait.
Alors pour finir sur ce Moyen-Âge qui sert de décor donc à cette histoire, un Moyen-Âge un peu fantasmé, un peu fantastique. Vous parlez de l'oppression, on parle d'un avenir radieux, de l'utopie, de l'espoir que pouvaient avoir les dominés, comme vous venez de dire, Roxane Moreil. Il y a quelque chose qui était omniprésent au Moyen-Âge, c'est l'idée du paradis, l'idée de la vie éternelle, la religion en général. Dans l'âge d'or, il n'y a pas de religion, enfin, pas de religion nommée, il n'est pas question de Dieu. Mais il y a des symboles religieux, parce qu'on ne peut pas faire véritablement le Moyen-Âge sans y arriver quelques fois quand même.
En fait, c'est pour ça qu'on ne s'est pas appuyé sur une période historique très précise. On s'est posé la question beaucoup au début. Hein. Et en fait, le fait religieux, finalement, nous embarrassait beaucoup. Voilà, pour toutes les raisons qu'on sait, que c'est, aujourd'hui, c'est une question omniprésente. Et c'est compliqué d'avoir quelque chose de vraiment intelligent et sensible à en dire. Du coup, on a essayé de mettre cette question-là de côté parce qu'on se sentait pas les épaules pour le porter en fait.
Alors Cyril Pedrosa, sur le plan graphique, d'où est-ce qu'il vient ce Moyen Âge ?
Là, il est largement influencé par les sources qu'on est allé rechercher avec Roxane, c'est-à-dire aller du côté des retables, des vitraux, des tapisseries, aller puiser dans toute cette iconographie-là pour essayer de trouver un trait qui soit en résonance juste avec cette histoire. J'avais pris une première direction qui était un peu une fausse piste, mais qui avait une forme plus traditionnelle. Et puis c'est vraiment dans les échanges avec Roxane qu'on a réussi comme ça à trouver une ligne graphique qui apporte une forme d'étrangeté et de merveilleux en même temps dont l'histoire avait besoin.
Alors vous, Cyril Pedrosa, du dessin animé, et Roxane Morail vient de dire que vous étiez allé chercher dans toute la culture populaire. On peut pas s'empêcher aussi, quand on voit ces pages extraordinaires de l'âge d'or, de penser à certaines visions qui viennent du dessin animé. On pense à Merlin l'Enchanteur, on pense à La Belle au Bois Dormant, à d'autres grandes sources graphiques comme ça, qu'on a tous en tête, des dessins animés de Walt Disney.
C'est vrai, mais je pense que c'est aussi parce que ces films-là avaient des références qui étaient proches de celles qu'on a utilisées. C'est-à-dire que
Absolument. La Belle au Bois
Dormant, très clairement, ils sont allés puiser dans cet univers graphique-là aussi pour construire une esthétique. Alors, ils ont fait ça, je crois, dans les années 50 à peu près. Mais du coup, la proximité, elle existe à cause de ça. Et puis, sans doute, peut-être aussi à cause de mon passé dans l'animation. C'est-à-dire que j'ai une tendance dans la codification de mon trait à être influencé par ce passage-là dans l'animation, même si j'essaie de m'en détacher parce que c'est pas toujours pertinent par rapport au récit. Mais là, ça rentrait pas en contradiction, mais en essayant quand même de ne pas être en référence à l'animation, mais plutôt de revenir à la source, en fait.
On pense aussi, en voyant en particulier dans ce second tome, le château extraordinaire hérissé de tours extrêmement compactes. On pense aux très riches heures du duc de Berry, par exemple. Il y a des châteaux qui ressemblent à celui-là. Quelquefois, quand on voit certains de vos visages, on peut penser aussi à la peinture de la toute fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance flamande. On peut penser à Bruegel, on peut penser à des choses comme ça. Et puis, on va parler plus tard de la couleur, mais il y a des audaces en termes de couleurs qui font plutôt penser, alors là pour le coup, au 19e siècle, voire au 20e, au mouvement fauve. Est-ce qu'il y a un grand mélange de tout ce que vous aimez là-dedans ?
Il y a un grand mélange de tout ce que j'aime, et puis il y a aussi, disons, un grand mélange du peu de choses que j'arrive à faire, c'est-à-dire que je fais avec mes limites, hein, objectivement, c'est-à-dire que je pense que je me sens un tout petit peu plus à l'aise dans la maîtrise et le contrôle de mon dessin, beaucoup plus que dans la couleur. Dans la couleur, c'est plus aventureux. Le travail de couleur, il a été fait en particulier sur le deuxième volume avec deux autres personnes. J'ai travaillé avec Joran Tréguier et Marie. Mince, j'ai un blanc pour son nom de famille, mais je vais le retrouver après. Et donc c'était un travail commun où je posais comme ça des jalons régulièrement sur les séquences. Mais ce moment-là où on définit une charte colorée graphique, c'est vraiment un moment où pour moi il y a beaucoup d'inconnus. Je sais vraiment assez peu souvent à l'avance comment je vais le résoudre. Et du coup, effectivement, je pioche un peu partout, soit dans des références précises, soit dans mon petit panthéon personnel. Et puis parfois c'est des accidents aussi. Parfois ça arrive pour trouver des ambiances colorées surprenantes. Il y a un peu de tout. J'essaie de faire feu de tout bois pour trouver quelque chose qui tienne la route au niveau des couleurs.
Alors, tant qu'on est dans les couleurs, il y a les couleurs qui ont été pour beaucoup, d'ailleurs, dans le succès de ce premier volume, l'étonnement de voir ces grandes pages avec des couleurs extraordinaires et très contrastées. Il y a aussi tout un travail sur la matière, sur les tissus, les étoffes qui ont des tissus imprimés ou les tapis à l'intérieur des châteaux. Il y a en particulier dans ce second volume une scène d'ouverture assez longue sous la neige. Et la neige, j'allais vous demander techniquement comment est-ce que vous avez obtenu, comment est-ce que vous avez cherché ces rendus. On a l'impression de confettis découpés et collés sur la page. Tout ça s'est fait numériquement ?
Non, ça dépend des motifs. En général, par exemple la neige, c'était des flocons que j'avais dessinés au pinceau, à l'encre, et que j'ai ensuite numérisé et appliqué par-dessus mes dessins. Mais alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ornements, surtout dans le premier volume, parce que dans le deuxième volume, on est un peu moins à l'intérieur du château, et donc on a moins l'occasion d'avoir des tapisseries, des choses comme ça. Mais dans le premier volume, il y en a beaucoup. Et souvent, c'était des motifs que je dessinais à la main, et ensuite que j'assemblais comme ça, numériquement, pour en faire ensuite comme des matières que je pouvais appliquer sur le dessin.
Et alors, une des grandes choses qui a aussi beaucoup marqué les lecteurs, c'est ces séquences, ces doubles pages parfois, ou ces cases horizontales assez larges, dans lesquelles on voit un personnage qui marche, enfin, ou qui évolue, et qu'on voit le même personnage à différents endroits de la case. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes allé chercher aussi dans une imagerie médiévale.
Complètement, et c'est vrai que c'est aussi beaucoup en parlant avec Roxane. Il y a mille manières de mettre en scène une page de scénario et de raconter une action. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'avançais sur les pages et qu'on échangeait là-dessus avec Roxane, elle m'a beaucoup incité à essayer d'utiliser ce moyen-là. D'abord parce que ça renvoie effectivement à cet imaginaire visuel commun qu'on connaît, dont on ne connaît pas toujours les sources, mais on voit bien que ça nous renvoie à cette époque-là. Et puis il y a un effet de condensation aussi dans cette manière de dessiner. C'est un moyen intéressant pour raconter le temps, par exemple, pour décrire une action, un déplacement à travers un espace. Donc c'était un jeu amusant à essayer de déployer.
Oui, Roxane Morey, j'allais vous interroger sur cette notion de temps et de rythme. Comment est-ce que on décide dans une longue bande dessinée comme celle-là, comment est-ce qu'on décide de la notion du rythme? Comment est-ce qu'on décide que, surtout dans ce deuxième tome qui est plus centré sur l'action, puisque c'est le siège du château qui est vraiment au cœur de l'histoire, comment est-ce qu'on décide tout d'un coup d'arrêter le temps et d'avoir des pages, des doubles pages muettes, six grandes cases horizontales, des paysages, des visages? Comment est-ce que vous avez décidé ça, peut-être à deux, donc, de cette histoire du rythme?
Bah, sur la partie strictement de l'écriture, nous, on avait vraiment prévu de raconter cette histoire en quatre saisons. Et on voulait qu'entre la fin du premier volume et le début du second, il y ait comme ça une grande ellipse qui nous permettait de raconter comment notre personnage de Tilda, alors qu'au début on l'imagine comme ça, comme une héroïne un peu naturellement bonne, elle s'est perdue et elle s'est totalement corrompue. Alors ça c'est vraiment l'ellipse narrative principale. Après, effectivement, sur le premier volume, on passe énormément de temps dans une communauté de femmes dans la forêt d'Aumale. Finalement, ça, c'est pas quelque chose qui fait énormément avancer le récit, en réalité. Mais par contre, ça nous permet de raconter énormément de choses, enfin, de poser aussi tout un décor, toute une époque, de présenter plein de personnages, de leur donner plus de densité, etc. Donc ça, c'est en fait c'est une petite mécanique qui est un peu plus facile à mettre en œuvre quand on est deux, en fait, de toujours se rappeler que au-delà des péripéties, parce que l'âge d'or c'est avant tout comme une grande épopée en réalité, et ben ça, c'était très important de toujours essayer de se ramener à ce qu'on voulait raconter, de pas être tout le temps dans quelque chose à toute vitesse, etc., etc. Donc ça, comment est-ce qu'on met ça en place? En fait, je crois qu'on a, c'est assez empirique, en fait, et c'est beaucoup en discutant tous les deux, et également avec, aussi parfois avec l'aide de notre éditeur, José-Louis Bouquet, qui nous relisait et qui venait recentrer aussi parfois et nous donner des, enfin voilà, nous ramener à ce qu'on voulait dire.
Vous avez évoqué cette communauté de femmes qui vivent entre elles dans la forêt d'Aumale dans le premier volume, dans une sorte d'utopie incarnée, enfin qui vivent une tentative d'une société apaisée, d'une micro-société, et ce personnage de la princesse Tilda. Dans le premier volume, on a beaucoup parlé du féminisme de cette bande dessinée, le Moyen-Âge féministe. À la lecture de ce second volume, c'est peut-être moins évident, mais déjà dans le premier volume, j'étais un peu surpris qu'on dise que c'est une bande dessinée féministe. Alors évidemment, il y a un personnage féminin, mais est-ce que vous, qui revendiquez, je crois, votre féminisme, Roxane Morel, est-ce que vous trouvez que c'est une bande dessinée féministe ?
Mais c'est vrai que j'ai été surprise aussi que ça prenne cette résonance-là. Après, c'est aussi parce qu'on était vraiment en plein, au moment de la sortie, cette explosion hashtag MeToo. On était juste avant ce moment-là, mais on sentait qu'il y avait ce mouvement général. Donc aussi, parfois, après, vous le savez, comme nous, parfois, la presse a envie aussi un peu de plaquer des concepts dans des livres qui sont pas forcément, se revendiquent pas forcément. Après, là où j'étais surprise, c'est que, enfin, c'était effectivement un projet dès le départ de donner à notre personnage féminin, plein de teintes différentes, qu'elles soient pas comme ça totalement idéalisées, sexualisées, etc. Ça, dans ce sens-là, peut-être que parce que on se pose ces questions-là de comment représenter un personnage féminin. C'est sûrement pour ça qu'on nous a dit que c'était assez féministe, mais bon, on n'a pas non plus inventé l'eau chaude là-dessus. On a été attentif à ça, en fait. Et ensuite, c'est dans cette communauté de femmes, bien sûr que ça vient aussi de ce qu'on avait un peu lu sur l'écoféminisme. Il y a eu aussi pas mal la question de regroupement non mixte, qui était beaucoup en question au moment de Nuit debout. Donc, en fait, voilà, tout ça, c'était comme des petites, des rappels de ce qui se passait dans la société de manière générale, cette déconstruction un peu patriarcale et tout. Mais c'est comme des clins d'œil, c'est comme un petit souffle qu'on a envie de donner. C'est pas un manifeste féministe, cette bande dessinée.
Et dans ce deuxième tome, Tilda est d'ailleurs, pour le coup, le seul personnage féminin. Enfin, on revoit une de ces femmes du phalanstère de la forêt qui sort un petit moment. Mais tout à l'heure, vous disiez que vous ne vous embarrassez, d'une certaine façon, vous aviez écarté le problème de la religion parce qu'il vous embarrassait. On peut dire aussi dans toute cette histoire de l'âge d'or, avec cette héroïne féminine, vous ne vous embarrassez pas vraiment de sentiments. Il n'y a pas beaucoup d'histoires d'amour, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Le cœur du sujet, c'est le rapport au pouvoir.
Ouais, alors du coup, c'est vrai que ce deuxième volet, il est peut-être un peu plus concentré sur une autre forme de domination qui serait, disons que là, c'est plus on se concentre sur le peuple et sur leur révolte, sur la révolte des dominés, des paysans. En fait, ça se répond. C'est un peu la même question. C'est un peu la convergence des luttes, hein, mais c'est voilà. Et après, effectivement, ce tome-là, il est pas tendre. Il est même très dur, beaucoup plus sombre que le premier. Donc, c'est la guerre, oui. Il n'y a pas de sentiment. Et surtout, Tilda, elle s'est totalement renfermée sur elle-même. Donc, il a aussi cette, c'est pour ça qu'il a cette teinte-là, ce volume. C'est qu'elle-même, elle s'est perdue. Elle est repliée. Elle est capable même de se défaire de son compagnon le plus fidèle.
Bertil. Ah non, le compagnon le plus fidèle, Tancrède, absolument. Ouais. Mm. Et puis alors dans tous les personnages, on va pas tous les évoquer. Chacun, Cyril Pedrosa montre un peu un rapport au pouvoir, un positionnement par rapport à cette question du pouvoir. Mais alors il y a ce petit groupe de paysans qui ouvrait le premier volume, ce petit groupe de gueux, on peut dire, Langui, Poudvigne et le petit Paul qui a l'air un peu simplet. Alors ils sont une sorte de cœur antique. Ils sont aussi mais ils prennent une importance dans ce deuxième volume. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce groupe qui marche comme ça, beaucoup, ils marchent ensemble, ils sont trois visages du peuple.
Ouais, ils sont trois, je les aime beaucoup. Enfin, je crois qu'avec Roxane, on était très attachés à ces personnages-là, parce que leur rôle se déplace. Enfin, au départ, ils sont effectivement comme une espèce de cœur qui commente l'action et qui le commande vu d'en bas, justement. Enfin, parce qu'on savait que nos personnages principaux étaient plutôt du côté des dominants, en fait, et on avait besoin d'un contrepoint. Et puis, très très vite, on a eu envie que ces personnages-là de commentateurs deviennent des acteurs. Et le personnage de Petit Paul, qui est un de mes personnages préférés dans cette histoire.
On le sent bien.
C'est le personnage au cœur pur, Petit Paul. Petit Paul, il dit toujours la vérité, il ne calcule rien. Il parle toujours avec une très grande sincérité. Et je me rappelle très très bien, lorsqu'on travaillait sur l'écriture et qu'on était dans la deuxième partie du récit, à un moment donné, enfin, Roxane a vraiment une idée déterminante, en fait, sur la place que pouvait prendre Petit Paul dans cette histoire, et qui a complètement, je trouve, donné une autre couleur et surtout donné beaucoup plus d'ampleur au récit. Le fait que Petit Paul devienne un acteur, mais assez décisif, en fait, du destin de ces hommes, moi, je suis très heureux de la manière dont le récit a évolué à partir du moment où on a pris cette décision-là. Parce que tout à coup, le personnage de Tilda a définitivement vraiment perdu son rôle d'héroïne providentielle qu'elle avait déjà un peu perdu. Mais pour réussir à décrire cette idée que chacun de sa place, même parfois avec un tout petit pouvoir, peut agir d'une manière absolument déterminante.
Et alors, au cœur de ce livre, il y a ce texte de l'âge d'or que vous avez écrit comme une forme de pastiche, mais extrêmement émouvant aussi. On peut citer les derniers mots. Depuis l'aube du premier jour, nous semons les plaines d'un nouveau monde où sous la courbe lente du soleil, l'ombre ne fait que passer. Et le livre se termine avec ces mots, on dira pas la fin de l'histoire, mais le livre se termine avec ces mots et des planches abstraites. Cyril Pedrosa, c'était important de ces 5 ou 6 doubles pages abstraites pour la fin?
C'était important parce que c'était un moyen de réouvrir de nouveau le récit, c'est-à-dire d'associer ces phrases à la fin du livre que j'aime beaucoup pour essayer de leur redonner un ton universel, enfin modestement, en tout cas disons de bien faire entendre que ces mots-là ne s'adressent pas qu'aux personnages du récit, ils s'adressent à nous tous. Et en se dégageant un tout petit peu de l'univers graphique pour aller vers quelque chose d'un peu plus abstrait, même si en fait ça n'est pas tant que ça, parce que c'est surtout des motifs végétaux, des motifs un peu vivants comme ça. Mais c'était l'envie de finir avec quelque chose qui s'ouvre.
Merci beaucoup à tous les deux, Roxane Morail et Cyril Pedrosa. L'âge d'or, les deux volumes sont donc parus dans la très belle collection Air Libre des éditions Dupuis. Ils sont disponibles en clic et rapplique dans toutes les librairies qui proposent ce service. Les références sont sur le site de France Culture. Et comme l'âge d'or a inspiré bien des artistes à bien des époques, on se quitte avec une chanson du milieu des années 60. C'est Léo Ferré.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches. Et le plus souvent, lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or.
Le rayon BD était préparé comme chaque semaine par Pascaline Bonnet, réalisé aujourd'hui par Assia Khalid, avec à la technique Ludovic Auger. Dans quelques instants, vous retrouvez Charles Danzig pour Personnage en personne.